Bonsoir à toutes et à tous, c'est du grain à moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Nous assistons à la fin du faux état de Daesh. C'est dans ces termes que le premier ministre irakien Haider al-Abadi a salué la prise de la mosquée al-Nouri à Mossoul. Après 8 mois d'intenses combats, la victoire est stratégique. Elle est aussi toute symbolique. C'est dans le monument au célèbre minaret penché qu'Abou Bakr al-Baghdadi avait proclamé le califat il y a 3 ans. Daesh était alors à l'apogée de son expansion. L'organisation aurait perdu depuis 60% de son territoire et 80% de ses ressources. Pourtant, si le coup est dur, les djihadistes ne laissent derrière eux qu'un champ de ruines, après avoir dynamité la mosquée vieille de 8 siècles, une façon de signifier que l'État islamique survivra même sans territoire. Mais de là à penser que l'espace ainsi laissé sera occupé par un État irakien restauré, que la destruction de l'organisation signifie la disparition des hommes qui la composent, rien n'est moins sûr. Les conditions sociales, économiques, politiques et religieuses qui ont engendré Daesh sont plus que jamais réunies, et l'Irak, dont la situation ne peut être séparée de celle de la Syrie, est pris dans le grand jeu régional et international des puissances. Que devient l'État islamique sans État? C'est la question du grain à moudre d'été, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Et pour nous éclairer sur cette question ce soir, 3 invités. Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et Études Méditerranée-Moyen-Orient, et vous êtes chargée de cours à Sciences Po. C'est long à dire IREMO, c'est pour ça que vous dites IREMO tout le temps, vous ne le dites jamais en entier. Vous allez nous éclairer sur toutes ces questions. Bernard Dreano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du CDTIM. Je renverrai les auditeurs vers cet acronyme. Non, c'est le Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale. Vous avez publié en 2015 Insécurité humaine, les luttes pour la paix au 21e siècle aux éditions Non-Lieu. Et enfin, Hocham Daoud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste de la société irakienne. Vous avez d'ailleurs été le directeur de la branche irakienne de l'Institut français au Proche-Orient. C'était entre 2011 et 2014. Et vous allez bientôt publier dans un ouvrage dirigé par Olivier Roy et Virginie Colombien, un ouvrage qui sera publié malheureusement en anglais aux éditions d'Oxford, voilà, qui s'appelle Tribes and Global Jihadism. Donc, j'ai été complet sur les présentations. Alors, une première question peut-être sur cette situation en Irak, Hocham Daoud, on annonce la chute de Mossoul, c'est complété par l'annonce de la chute de Raqqa en Syrie, ça a pris énormément de temps. Pourquoi c'est si difficile de gagner militairement contre Daesh, surtout qu'on se souvient qu'eux avaient une expansion fulgurante, véritablement, il y a de ça quelques années.
Parce que Daesh avait un boulevard devant lui. La société était divisée, le gouvernement désaccrédité, la politique a pris une couleur sectaire confessionnelle, quelquefois ethnique, et puis l'Irak, il s'est trouvé plus ou moins engouffré dans une répartition, je dirais, régionale de conflits entre deux puissances, l'Arabie Saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, etc. Donc, l'Irak, malgré lui, avec le consentement de quelques courants politiques à l'intérieur, il se trouve au cœur. Acteur mineur, mais à la fois champ de bataille. Donc, les sunnites, ils étaient pour l'air frais depuis 2003, marginalisés, mis à l'écart,
depuis l'invasion irakienne,
mais surtout pas accepter cette situation. Classe politique sunnite, il ne se trouve pas à l'auteur d'apporter des réponses depuis des années. Corruption, subordination, puis assujettissement par rapport à la puissance régionale et djihadisme. Par un discours simple, ils ont quand même transformé leur nihilisme en espérance que la guerre, c'est une guerre communautariste entre sunnites et chiites. C'est à nous d'apporter la couleur du sunnisme. C'est à nous de créer une frontière radicale. La communauté internationale restait hésitante à un moment donné, depuis 2014 jusqu'à 2015. À partir de là, quand l'organisation de l'État islamique, je suis plutôt pour la qualifier d'organisation de l'État islamique, beaucoup plus qu'un État, c'est un projet de projection beaucoup plus qu'une réalité. Et à ce moment-là, quand ça s'est trouvé comme un projet de guerre permanente de conquête, c'est là où la communauté internationale se trouve face à cet ennemi qu'il faut lui marquer les limites et le combattre.
Agnès Levallois, on entend, après cette première intervention de Hicham Daoud, les différentes dimensions du problème. La dimension locale, évidemment, un État failli en Irak. La dimension internationale, l'Irak comme champ de bataille à la fois régional et international. On y reviendra à la fin de l'émission, si vous le voulez bien. Mais il y a aussi cette question du débat, c'est-à-dire, j'ai intitulé de manière un peu provocatrice, que devient l'État islamique sans État, cette émission. Il y a toujours débat sur cette dimension étatique. Ce que montre quand même cette difficulté de battre Daesh, c'est une forme d'ancrage tout de même social, territorial, et même économique, on pourrait dire, de Daesh en Irak.
Oui, ce qu'a très bien montré Hicham Daoud à l'instant, c'est vraiment le fait que cette population de Mossoul, puisque là on parle en ce moment de Mossoul, cette grande ville du nord de l'Irak qui est en train d'être reprise par les forces irakiennes, cette grande ville sunnite, majoritairement et pratiquement exclusivement sunnite, s'est retrouvée dans les propos tenus au départ par l'organisation État islamique, avec le sentiment pour une partie de cette population que cette organisation allait porter ses revendications et allait permettre à cette communauté sunnite d'avoir une représentation et de ne pas être marginalisée dans le nouvel Irak post-invasion américaine qui est dirigée par les chiites, puisque les chiites en Irak sont majoritaires. Et donc je crois qu'on ne comprend rien à la situation actuelle si on ne se rappelle pas qu'une grande partie de la population sunnite de Mossoul a accueilli cette organisation État islamique, pas forcément d'ailleurs au début en sachant ce qu'elle allait devenir cette organisation, mais parce que cette organisation s'est vraiment présentée comme défendant les intérêts des sunnites. Et donc après toutes les années entre 2003 et la prise de Mossoul, c'est vrai que cette communauté s'est sentie vraiment mise de côté, marginalisée, et avec un pouvoir central à Bagdad qui ne voulait absolument pas entendre la possibilité de lui accorder une place politique. Et si aujourd'hui les forces de l'armée irakienne ont aussi du mal à reprendre la ville de Mossoul, c'est qu'il y a une partie de cette population sunnite de Mossoul qui, même si elle n'adhère absolument pas à l'idéologie de l'organisation État islamique, a très peur de ce qui va se passer ensuite avec la reprise par ces forces irakiennes qui, elles, sont majoritairement chiites. Et le drame de cette situation irakienne que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de la situation en Irak en des termes confessionnels, ce qui n'était pas forcément le cas avant l'invasion américaine, qui a vraiment créé un séisme politique, un séisme social aussi dans la représentation des Irakiens de leur État. Et donc le drame aujourd'hui, c'est comment rassurer cette communauté sunnite pour que celle-ci ne soit pas attirée par un discours tel que le discours prôné par l'organisation État islamique, et comment faire confiance au pouvoir central de Bagdad. Et je crois vraiment que le nœud pour l'avenir, une fois la reprise de Mossoul faite, c'est comment retrouver cette confiance avec les autorités politiques de Bagdad pour permettre de reconstruire un lien social et politique, et qui permettra à l'ensemble des Irakiens de se retrouver dans cet État irakien.
Bernard Dréano, comment est-ce que vous percevez justement cette articulation finalement entre une forme d'ancrage territorial et la volonté manifestée, notamment par Al-Baghdadi, par le dirigeant de Daesh, d'exister comme un califat, comme un État en quelque sorte?
Alors il y a plusieurs choses. D'abord, dans le développement territorial de Daesh, ils ont réussi à se développer en Syrie sans pour autant, comme en Irak, donner l'impression qu'ils allaient représenter la cause sunnite en quelque sorte. Ils ont surtout profité du chaos ambiant à cause de la guerre civile syrienne. Il faut rappeler qu'ils ont pris Raqqa, non pas à l'armée de Bachar, mais à l'armée syrienne libre. Et ils ont donc profité des jeux d'alliances contradictoires, et ce qui leur a permis de s'étendre largement. Ensuite, ils ont dans l'affaire de l'État, il y a deux choses. Il y a la proclamation du califat, qui est quelque chose aussi d'idéologique par rapport au monde entier, hein, le commandeur des croyants pour l'ensemble du monde. Et donc, à qui on peut faire allégeance, c'est des gens qui ont tout à fait une autre histoire et qui sont à des milliers de kilomètres de là, au Nigeria, vont prêter allégeance au soi-disant calife. Et puis, il y a la tentative de faire semblant, d'essayer d'être un État avec des taxes, avec une certaine gestion locale, plus ou moins maîtrisée et plus ou moins réelle. Enfin, c'était surtout une occupation militaire et un contrôle militaire. Il y a une autre chose qui est frappante, c'est que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il leur a fallu très peu de temps pour s'étendre en Irak, un peu plus longtemps parce qu'il fallait profiter des failles des autres pour s'étendre en Syrie. Et alors qu'il est à peu près évident qu'à terme, il ne pouvait pas tenir éternellement quelque part contre le monde entier, on peut s'étonner qu'avec un maximum de 40 000 combattants aguerris, c'est un maximum, On met 3 ans à venir à bout. Alors il y a plein de raisons, y compris des tas de raisons qui sont opérationnelles, mais il y a aussi, on peut aussi s'interroger sur l'efficacité, avec des guillemets, de l'intervention internationale. Notamment avec les méthodes utilisées. Le colonel Michel Goya, qui est un expert militaire français, a fait un calcul sur... alors là, c'est sur tous les fronts. Hein. Il a calculé combien coûtait un djihadiste mis hors de combat par les seules forces françaises. Mis hors de combat. Hein, il a dit, on a, d'après les données de l'armée française, on a liquidé 900 combattants ennemis. Autant au Sahel qu'en Irak. Bon, évidemment, les Américains en ont tué beaucoup plus. Ça revient à 1 million d'euros par personne. Il y a quelque chose d'aberrant, là, parce que le million d'euros en question, est-ce qu'il n'aurait pas pu être utilisé autrement, y compris sur le plan militaire? Et donc, on peut se poser la question de la manière dont ça s'est fait, indépendamment aussi du fait que, sur le terrain, les forces locales, quand c'est les milices chiites en Irak, une partie de la population sunnite s'inquiète.
J'aimerais qu'on reste quand même un instant sur cette dimension territoriale. Est-ce que Hocham Daoud, c'était une dimension purement symbolique pour Daesh? On l'a dit, le prétendu califat, d'ailleurs qui rentre un petit peu en contradiction avec la notion d'État, mais ça c'est plus qu'un détail, mais c'est une subtilité que vous pourrez peut-être nous expliquer. Mais malgré tout, est-ce que c'est une dimension symbolique ou essentielle à l'existence de Daesh? C'est le fait d'être ancré dans un État, d'avoir une base idéologique où on peut recruter, où on peut... de laquelle on peut rayonner véritablement, à la fois dans la région et même au-delà.
On ne peut pas faire l'économie d'une archéologie de Daesh. Organisation, mode de fonctionnement, projection, comment on épuise la culture locale. Daesh, c'est une organisation locale, avec empreinte de mode opérationnel, venant du djihadisme, de réseaux globaux, d'Al-Qaïda et d'autres. 80%, plus que 80% de Daesh en Irak fondent par des Irakiens. Souvent, des gens, ils sont de même village, même faubourg, même quartier, même tribu, etc. Ces gens-là, ils se trouvent pour une raison ou pour une autre. Soit parce qu'ils sont un peu expulsés, soit mis à l'écart, etc. Donc, il y a quelque chose qui l'attire. Deuxièmement, Daesh, comme une projection locale, il essaie d'organiser un territoire, comme une organisation. Et il essaie d'avoir un minimum de gestion, d'organisation, de diriger des gens, d'arbitrage, de justice locale, etc., selon ses critères. À un moment donné, il dit, écoutez, étant donné, nous sommes dans un projet de rupture, quelle forme d'État? On va voir. Moussel, pour les Irakiens, constitue quand même une autre portée symbolique. Je ne sais pas, il faut peut-être parler aussi de ce qu'il y a d'antécédent. Vous savez, depuis le 18e siècle, des gens comme Mohammed ben Abdel Wahab, il a visité Moussel, il est resté à Moussel quelques mois, voire même une année. Il a parlé de Moussel, sa vocation, sa place. Un siècle après, d'autres figures qui constituaient du salafisme de l'époque, comme Rachid Reda et d'autres, au moment que le califat était aboli en Turquie, il y avait un débat dans le monde arabe. Il disait, bon, entre le Caire, entre ce qu'on garde de monde musulman et arabe, etc., peut-être Moussel, il constitue l'intermédiaire. Donc, on a évoqué encore Moussel. Et puis, la place de Moussel comme un capital régional au nord de l'Irak, avec sa vocation, sa participation dans l'élaboration d'une culture militaire, régionale, était beaucoup plus proche, d'ailleurs, historiquement, Moussel de Halab que d'autres choses. Donc, tout cela a constitué une spécificité de cette région. Comme Bagdad, il débarquait, c'était tout naturellement, Moussel constitue un symbole. Moussel à côté de Raqqa, pour Daesh, Moussel est beaucoup plus importante. La place, l'ancrage, c'est une ville qui est derrière elle presque 1000 ans. Des mosquées, des ulamas, des contributions de culture, de théologie, mais il faut complexifier un petit peu les choses.
Parce que ça n'a pas empêché de dynamiter la mosquée, par exemple.
Dynamiter la mosquée, parce que Daesh, il voulait les dynamiter de la départ. La gente de Moussel, il constituait un rempart. Il a apporté les serments. À partir de lors, le lieu se transforme en sacralité pour Daesh, un point fixe de reproduction identitaire de califat. Quand ils partent, il y a 3 niveaux qu'ils opèrent. Un niveau politique, apporter la contradiction, c'est pas nous, c'est les alliés qui l'ont dynamité, ils l'ont bombardé, c'est l'accusation des Américains. Deuxième chose, on vous éprive d'une victoire, on vous rend pas le lieu que nous avons annoncé notre califat. Troisième chose que je suis en train d'étudier, dans cette période de transition où Daesh, ancrage territorial et peut-être post-Daesh qu'il devient un peu déterritorialisé, à ce moment-là, on parle de plus en plus, dans le milieu de Daesh, de califat virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire un califat virtuel sans point fixe, un ancrage? Donc à partir de tout cela, il y a quelque chose qui est, c'est pas sans débat à l'intérieur. Ce sont des gens qui se débattent, qui essayent de voir, etc. Mais le califat, c'est une forme d'État et de pouvoir qui se projette dans un moment donné en Irak.
Alors justement, vous parlez de se projeter et vous parlez aussi de l'ancrage. 80% des gens qui composent Daesh en Irak sont des Irakiens. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces gens vont se retrouver par exemple en Syrie? Et surtout, est-ce que Daesh, Agnès Levallois, garde une capacité de projection? On sait que Raqqa a servi de base pour un certain nombre d'attentats en Europe. Est-ce que le fait que Raqqa tombe, que Mossoul tombe, est-ce que ça entame ces capacités stratégiques, opérationnelles de Daesh?
Ce que ça entame très clairement, c'est ce projet en fait d'avoir un territoire à partir duquel mener des opérations, à partir duquel faire rêver aussi un certain nombre de personnes pour les attirer sur ce territoire. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, ce territoire est complètement remis en question avec la prise de Mossoul. Et là, j'aurais juste une petite anecdote. Quand on pense à la ville de Larkra, une ville où je suis allée régulièrement dans les années 80-90 quand j'étais en Syrie, c'était vraiment une toute petite bourgade absolument insignifiante dans laquelle il se passait moche, dans laquelle il se passait strictement rien. Et donc de voir aujourd'hui cette ville de Larkra en Syrie qui est devenue le centre ou la capitale de cette organisation État islamique, ça ferait sourire si la situation n'était pas aussi grave. Anecdote terminée, c'est vrai qu'il y a vraiment aujourd'hui une plus grande difficulté pour cette organisation à pouvoir attirer des jeunes combattants, puisqu'il n'y a plus cette notion de territoire et qui était promue comme un endroit où un certain nombre de musulmans à travers le monde pouvaient venir pour vivre selon des critères en toute sécurité, en toute tranquillité.
Ce qu'ils appelaient le Cham.
Ce qu'ils appelaient, donc ils étaient trouvés dans ce Bilad al-Cham qui est cette région, et avec cette volonté finalement de vivre sur un mode tout à fait différent du mode sur lequel ils vivaient lorsqu'ils étaient soit à Rabat, à Paris, à Bruxelles, enfin d'où qu'ils venaient. Et donc c'est vrai que de perdre ce territoire, ça enlève aussi une certaine capacité à cette organisation, me semble-t-il aujourd'hui, à pouvoir recruter. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui à l'organisation État islamique, puisque c'est vrai que ça devient plus difficile de rejoindre le territoire, parce qu'il y a eu des mesures quand même qui ont été prises, et je pense en particulier à la Turquie, qui quand même aujourd'hui contrôle beaucoup plus sérieusement sa frontière. Mais au-delà de la difficulté physique à pouvoir se rendre sur ce territoire, il y a le fait aussi que c'est beaucoup moins attractif, parce que qu'est-ce que vous vendez entre guillemets aujourd'hui à des futurs ou des potentiels combattants lorsque vous n'avez plus ce territoire, qui était un territoire organisé, avec des ressources, avec des capacités à pouvoir donner des salaires aux combattants? Et d'ailleurs, petit élément qui est intéressant, c'est qu'il semblerait, alors je suis prudente, parce que moi je suis pas sur place, je suis pas avec les combattants de Daesh, mais il semblerait qu'aujourd'hui, ceux qui s'occupent de la communication de l'organisation islamique soient mieux payés que les combattants, parce que comme il y a moins de combattants et que c'est plus difficile de faire venir des combattants, il vaut mieux essayer de mieux rémunérer ceux qui s'occupent de la communication, parce que la communication devient un élément essentiel pour tenter de continuer à attirer des jeunes, à les faire venir, et donc des moyens considérables sont mis, et ce qui est la démonstration finalement aussi de la perte de territoire, qui fait que du coup on investit dans un autre domaine et on revient à la virtualité, dont a parlé Hocham il y a quelques instants, et donc on est tout à fait dans cette même nouvelle dynamique de cette organisation.
Bernard Dréano, l'organisation peut s'écrouler, on n'y est pas encore, mais voilà, on pourrait imaginer que Daesh s'écroule, mais les gens, eux, ils sont toujours là, ces djihadistes, et les conditions aussi qui les ont créés restent assez prégnantes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce titre-là? C'est-à-dire que l'Irak est évidemment exsangue, la Syrie, n'en parlons pas, si tant est qu'on trouve une solution après Bachar al-Assad, si tant est qu'on trouve une solution pour reconstituer tant que faire se peut l'État irakien, on a quand même des conditions économiques, des conditions sociales qui restent présentes. C'est aussi assez préoccupant.
Bien sûr. D'abord, l'organisation État islamique, comme vous avez dit, disparaît pas ipso facto, même si elle est très affaiblie. Par exemple, une partie de leurs ressources venait du fait qu'ils occupaient un territoire et qu'ils percevaient des taxes sur les transports parce qu'il y avait des vivres qui circulaient, des choses comme ça, du trafic de pétrole, du trafic d'œuvres d'art, tout ça. Et ça, évidemment, si on n'occupe plus le territoire, on l'a plus. Et donc, on est moins bien organisé, mais en même temps, on s'organise à un autre niveau. Ensuite, évidemment, c'est pas les seuls djihadistes. En Syrie, la coalition autour de Tahrir al-Sham reste extrêmement puissante. Mais c'est différent parce que les autres djihadistes, ils sont dans des systèmes d'alliances. Ils sont pas... Tandis qu'une des caractéristiques tout à fait particulières de Daesh, c'est nous tout seuls qui, progressivement, allons conquérir le Levant entier. Mais par contre, les conditions qui ont donné naissance... Alors, quelles sont ces conditions? Dans le pire des cas, et c'est là que se développe le djihadisme armé, c'est qu'il y a déjà la guerre. Il y a déjà des situations de guerre ou de conflits sociaux ou de conflits tensions extrêmement fortes. C'est vrai dans les autres terrains où on voit des djihadistes apparaître. Et dans ce contexte apparaissent les djihadistes. La fin de Daesh signifie malheureusement pas forcément la paix dans la région. Et puis, il y a on l'a vu en Irak, ce sentiment ou cette réalité de marginalisation des sunnites, les tensions la pauvreté, la frustration, des gens qui sont dans des situations désespérées, ce qui peut entraîner d'ailleurs des radicalisations et des gens qui disent « puisque c'est comme ça, je vais faire tout péter », enfin bon, entre guillemets. Donc malheureusement, les conditions qui ont donné naissance à ces mouvements persistent.
Oui, je voudrais juste ajouter une chose qui me paraît importante à ce stade, c'est de la grande différence quand même entre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. On n'est pas du tout dans le même cas de figure, et Hocham l'a très bien dit tout à l'heure, en Irak on a vraiment des combattants irakiens, en Syrie ça n'est pas le cas, et les combattants de l'armée libre de Syrie ou certains groupes combattants en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad, ont aussi réussi à faire partir les combattants de l'organisation État islamique de certaines zones de Syrie. Donc on n'est pas du tout dans la même situation où en Syrie, ces combattants de l'organisation État islamique ne sont pas accueillis par les populations syriennes, comme ça a pu être le cas en Irak, parce que c'était des combattants irakiens et qui avaient un problème politique tel qu'on l'a défini au début de cette émission. Et je crois qu'il est très important de bien montrer qu'on n'est pas dans la même situation, que les ressorts et d'ailleurs, cette organisation État islamique a du mal à s'implanter en Syrie, en dehors de la zone où elle est aujourd'hui, essentiellement à la zone de Larqa, Deir ez-Zor, et puis avec quelques incursions. Et quand elle a voulu faire des incursions bien au-delà, elle a été en fait mise dehors par des Syriens qui, eux, ne veulent pas de cette pollution, si vous me passez l'expression, que représente cette organisation islamique sur ce territoire syrien.
Alors restons justement un petit peu en Irak, puisque c'est vraiment la base, ou c'était la base à partir de laquelle Daesh s'est développé. Je l'ai dit, il y a des conditions objectives qui restent présentes, Hocham Daoud, à ce développement. Aujourd'hui, l'explosion de l'État irakien, la confessionnalisation, vous nous en avez parlé, la militarisation aussi de la société irakienne, tout ça, ça persiste. On peut parler aussi de la question des réfugiés, beaucoup de déplacés qui sont dans des situations atroces et qui donc sont aussi un terreau fertile, évidemment, à l'embrigadement et à la radicalisation. On peut voir une porte de sortie aujourd'hui, selon vous, la situation telle qu'elle est en Irak peut voir émerger, que ce soit Daesh, une autre forme, revenir Al-Qaïda, que sais-je, des formes nouvelles de djihadisme.
À court et moyen terme, le djihadisme se métamorphose, ne disparaît pas. Du coup, moi je parle Daesh, c'est d'une manière générique, post-Daesh, j'entends par là, c'est une forme d'action djihadiste. Et ça peut être beaucoup plus violent encore s'il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas d'ouverture. Donc l'ouverture, il faut le penser politiquement à l'intérieur de l'Irak, avec les acteurs. Mais les acteurs, on sait leurs limites, leurs capacités. Il faut le forcer. Il faut avoir une voie balisée, il faut quand même une intervention.
Mais qui peut les forcer, la communauté internationale?
La communauté internationale, c'est un terme maintenant.
Bon, les Américains d'un côté, disons, les Iraniens de l'autre.
Quelques puissances au niveau international. Les Américains et les Iraniens, ils sont deux forces qui agissent sur le terrain. Les Iraniens, ils sont très présents politiquement, ils sont très présents militairement, mais les Américains, ils ne sont pas pour le reste. Aujourd'hui, il y a 7 à 8 000 soldats américains, forces spéciales. Un soldat combattant américain a besoin de 4 à 5 aides logistiques avec lui. Donc, je vous donne simplement les chiffres au niveau de présence officielle, sans parler de bodyguards, sans parler de compagnies de protection, sans parler d'autres types d'acteurs, etc. Donc, nous avons une capacité avec 7 à 8 bases militaires qui se trouvent sur place. Et les Américains, ils pensent en termes de zone d'influence. Ce qui fait, ils discutent très librement avec les Russes en Syrie. À un moment donné, à l'époque d'Obama, ils discutaient, je dirais, d'une manière un peu moins voyante avec les Iraniens. Aujourd'hui, ils veulent avoir quelque chose un peu mieux clairement délimité à l'intérieur de l'Irak. Autre point, durant cette période de transition, nous avons hérité une armée fissurée, corrompue, qui était battue en retraite. Dans la guerre, les Américains avec les Irakiens, ils ont réussi de bâtir une deuxième armée très professionnelle, très spéciale.
Les fameuses forces spéciales qui sont intervenues.
Plusieurs corps de forces spéciales à hauteur de 60 à 80 000. Mais ce sont des forces très capables de combattre le terrorisme, considérées parmi les meilleures, après Israël dans la région. Mais ce n'est pas une force qui peut contrôler un territoire aussi immense que le territoire irakien. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas faire l'économie d'un accord politique avec une garantie régionale et internationale et puis la capacité des Irakiens eux-mêmes de s'ouvrir et surtout de penser qu'est-ce que ça veut dire un État pour l'Irak qui est aujourd'hui aussi segmenté. Qu'est-ce qu'on va répondre aux Kurdes? Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté pour un pays comme l'Irak qui est aujourd'hui, se trouve au bord de la faillite? Qu'est-ce que ça veut dire pour discuter avec les autres pays de la région pour dire il ne faut pas intervenir en Irak, mais contre quoi? Etc, etc. Tout cela, ça ne peut pas passer sans accord, sans discussion. Et une fois, même s'il le faut, il faut obliger les belligérants pour s'asseoir autour de table, sinon il y aura des sanctions.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
18h46, vous écoutez bien France Culture, c'est du grain à moudre d'été. Que devient l'État islamique sans État? On en discute avec Agnès Levallois, qui est la vice-présidente de l'IREMO, Bernard Dreano, qui lui est le président du CDTIM, le Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, et l'anthropologue Hocham Daoud. On a balayé un petit peu cette évolution, cette situation irakienne, l'évolution de Daesh. Et vous avez commencé, Hocham Daoud, à ouvrir un peu le spectre géopolitique. Et j'aimerais qu'on y consacre un peu une partie de la dernière, cette dernière partie de l'émission. Il y a en effet des forces en présence. On a parlé de, on a évoqué l'Iran, les États-Unis. On peut parler évidemment de la Turquie. Il y a différentes échelles, de la plus tribale à la plus internationale, sur ce sujet-là. Agnès Levallois, est-ce que l'Irak reste un champ d'affrontement régional, international, ce qui rend la situation aussi évidemment très compliquée pour véritablement venir à bout de ces organisations terroristes?
C'est vrai que l'Irak est vraiment un terrain aujourd'hui sur lequel on retrouve beaucoup, beaucoup de monde, si je puis dire, puisqu'il y a ce niveau local, il y a le niveau régional, il y a le niveau international, il y a cette coalition internationale qui est là pour lutter contre cette organisation État islamique. Ce que l'on sait très bien, c'est que les simples bombardements aériens ne sont pas suffisants pour pouvoir venir à bout d'une telle organisation, et que donc il faut des troupes sur le terrain. Les troupes sur le terrain, ce sont les Irakiens, mais qui sont aidés en cela par les Iraniens essentiellement. On sait que les Kurdes jouent aussi leur partie dans cette affaire aujourd'hui. Il y a cette annonce d'un référendum
le 25 septembre
dans la région kurde irakienne au mois de septembre. Et donc là, c'est une occasion aussi pour les Kurdes, à la faveur de ce conflit qui existe en Irak, mais aussi en Syrie, d'essayer de pouvoir faire avancer leur projet politique d'un État qui avait été promis dans les années suite au démembrement de l'Empire ottoman, et État qui n'a jamais vu le jour. Donc on voit bien qu'on est face à différentes forces. Et que aujourd'hui, chacun essaye aussi d'avancer ses pions en fonction de ses intérêts sur un terrain qui est un terrain extrêmement morcelé et sur lequel chacun essaye d'avancer le plus possible pour en retirer le maximum de gains. Et donc, on voit une situation en Irak telle qu'on l'a décrite et une situation en Syrie où aussi on voit toutes ces interventions extérieures et qui compliquent sérieusement ce jeu et qui compliquent d'autant plus l'issue politique. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Hocham à l'instant, c'est que tout ça n'aboutira jamais à rien si on n'arrive pas à une solution politique, que ce soit en Irak, en Syrie. Ça ne sera pas la même chose parce que ce ne sont pas les mêmes terrains. Mais ne perdons jamais de vue que là, on parle beaucoup de militaires, d'action militaire, de lutter contre cette organisation. Et donc, évidemment qu'il y a cette dimension qui est importante, mais elle est largement insuffisante et elle sera complètement contre-productive si elle n'est pas accompagnée d'une vraie démarche politique pour offrir à ces populations un avenir, pour les détourner aussi de cette aspiration que peut représenter cette organisation État islamique ou n'importe quelle autre organisation radicale.
Bernard Dreano, vous évoquiez tout à l'heure votre scepticisme sur l'efficacité de l'intervention militaire de la communauté internationale, celle des États-Unis en particulier. Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste ou est-ce que vous pensez, en tout cas comme Hocham Daoud ou Agnès Levallois, que la solution politique, elle passe aussi par ce poids de force régionale, de puissance régionale ou internationale?
Il ne peut pas y avoir de solution politique sans prendre en compte les interventions régionales. L'Iran acceptera jamais la présence d'un pouvoir hostile, potentiellement hostile à l'Iran, à Bagdad. Et de toute façon, un pouvoir à Bagdad, c'est pas forcément un pouvoir sur l'Irak tel qu'il est aujourd'hui. Il est complètement morcelé, comme on sait. Et chacun joue, dans les acteurs qui jouent, il faudrait rajouter l'Arabie Saoudite, sauf que l'Arabie Saoudite, elle n'a pas de troupes sur le terrain, elle n'a pas de relais direct, mais elle se prétend la protectrice des sunnites, et elle met en scène son conflit avec l'Iran, ce qui, du coup, durcit les positions iraniennes.
On l'a vu récemment avec l'affaire du Qatar.
On la voit absolument avec l'affaire du Qatar, et en profitant aussi du fait que les États-Unis semblent, enfin Trump en tout cas, semble prendre fait et cause pour les pétromonarchies contre l'Iran. Une conférence de paix dans laquelle la différence entre l'Irak et la Syrie, c'est qu'en Irak, il n'y a pas les Russes. Mais c'est pas pour ça que c'est plus simple.
Et c'est plus facile, oui.
C'est pas pour ça que c'est plus facile.
Hocham Daoud, on a évoqué le cas des Kurdes qui ont fourni une force importante militaire à la fois à Raqqa et à Mossoul. On l'a dit, le président Barzani a annoncé début juin, c'est il n'y a pas très longtemps, un référendum d'indépendance pour le 25 septembre. Bon, c'est vrai que c'est un référendum qui n'a pas trouvé un écho très favorable, évidemment, du côté de la Turquie, mais pas plus du côté de la communauté internationale, on va dire, occidentale. Donc ça risque de s'avérer assez compliqué. Malgré tout, c'est un élément de ce nouvel Irak. On ne peut pas imaginer autre chose qu'une sorte d'État fédéral. À quoi ça pourrait ressembler à cet Irak post-Daesh, en quelque sorte?
Vous avez aujourd'hui en Irak un État fédéral. Je dirais, par défaut, vous avez un État, je dirais, presque morcelé, même confédéral. Monsieur Barzani, d'ailleurs, il n'a pas en accord avec les autres protagonistes kurdes, ni à l'intérieur de l'Irak, ni dans la région. Il a beaucoup de difficultés avec le Kurde de Syrie. Il a beaucoup de difficultés, même hostilité avec le PKK de la Turquie. Il est plus proche de la Turquie que les autres parties de Kurdistan d'Irak qui sont beaucoup plus proches d'Iran. Donc la situation kurde ne se présente pas dans une situation meilleure que les autres segmentations dans la région.
C'est ce qu'on pourrait croire, parce que notamment auréolé de ses victoires militaires, on parle beaucoup évidemment des forces kurdes et du Kurdistan, on pourrait penser que c'est un pas vers une forme d'État, d'indépendance.
La contribution kurde était importante au départ, avec l'aide internationale, la coalition internationale qui a été beaucoup plus efficace, et j'étais à ce moment-là à Erbil, je voyais ça de mes propres yeux, qui se concerne non seulement les Occidentaux, même les Iraniens. Le 3 août, quand Daesh a attaqué Erbil, la première force qui a défendu Erbil, c'était la brigade d'Al-Quds de général Soleimani. C'était même pas les Américains ou les Français. Donc, à partir de là, c'est vrai, on peut dire que le Kurde, il se pose des questions. Ils ont des crises politiques importantes à l'intérieur. Ils ont des crises économiques très importantes à l'intérieur. Mais c'est une population, un peuple qui est de 30 à 40 millions. Ils ont le droit d'avoir leur avenir et de poser des questions. Comment va être dessiné leur avenir? Est-ce qu'il sera toujours assujetti, subordonné? Est-ce qu'il y aura d'autres massacres à leur rencontre, etc.? Est-ce que ça passera par des négociations? C'est toute la question. Le référendum qui est proposé d'ailleurs par M. Barzani, à lui tout seul, il est hors mandat parce qu'il n'est plus président depuis 2 ans. La question se pose, est-ce que c'est une fuite en avant ou est-ce que c'est une solution de sortie? Personne dans la communauté internationale n'a apporté son soutien à cette initiative. Parce que la guerre continue contre Daesh, la situation reste très très compliquée à l'intérieur du Kurdistan. La situation kurde est beaucoup plus proche du Sud-Soudan chaotique que d'une solution heureuse. C'est la raison pour laquelle il faut négocier avec Bagdad, élargir la fédération. Pourquoi pas arriver à quelque chose qui ressemble à une confédération, avec un contrat à l'intérieur d'un État un peu plus lâche, avec 2 personnalités, voire 3, avec leur diplomatie, leur philosophie économique, etc. Ça la voit. D'ailleurs, Massoud Barzani, quand on discute en privé avec lui, il dit « c'est mon objectif ». Je ne demande pas l'indépendance maintenant, je demande une carte à la population kurde pour rendre ma position beaucoup plus robuste et forte en négociant avec Bagdad. Sauf, il demande d'organiser le référendum dans la zone disputée face à l'armée irakienne. Sauf, l'ONU, il se retire. Sauf, la communauté internationale, il le blâme. À ce moment-là, ce sera une fuite en avant, beaucoup plus risquée, qu'aujourd'hui s'allier avec Bagdad contre Daesh.
Agnès Levallois, pour terminer sur le sujet qui est à l'origine de cette émission, à savoir que devient l'État islamique, cette transformation qu'on a évoquée à plusieurs reprises, transformation en forme d'État virtuel en quelque sorte, nous a expliqué Hocham Daoud. Est-ce que il y a un risque, malgré tout, de voir ce djihadisme se globaliser aussi en éclatant, c'est-à-dire aller se répandre en Irak, mais peut-être plus loin? On a parlé de la création d'une force du G5 Sahel le dimanche dernier. Est-ce que, voilà, chassé d'Irak, on peut imaginer un djihadisme qui se globalise?
Mais c'est déjà le cas. Regardez, il y a déjà des brigades où il y a déjà des combattants dans le Sinaï, par exemple, en Égypte. On a vu, il y a Boko Haram au Nigeria ou en Afrique, avec quand même une capacité de nuisance réelle. Donc on voit finalement, avec cette transformation de cette organisation, la capacité de combattants à se revendiquer de cette organisation sans qu'il y ait forcément un lien extrêmement ténu, sans qu'il y ait vraiment quelqu'un, un grand chef quelque part, qui décide de faire une opération à tel ou tel endroit. Mais il y a une capacité, effectivement, pour tout un tas de combattants, de s'approprier cette appellation, cette marque organisation islamique, en sachant que c'est une marque qui fait parler, qui fait beaucoup parler d'elle. Et là, on revient à la communication dont je parlais. C'est vraiment un élément essentiel pour comprendre cette organisation État islamique et la rapidité ou la facilité avec laquelle elle a pu se répandre. C'est toute cette dimension de la communication qui est essentielle et qui est vraiment partie intégrante de cette organisation. Et donc, on ne peut absolument pas exclure que, chassé de ce territoire irakien et peut-être syrien, qu'on retrouve effectivement des personnes, des combattants, des djihadistes qui puissent mener des opérations, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit en Afrique, en Asie. On a vu aussi quand même des opérations qui ont été menées. Donc je crois que là, il faut absolument se dire que ça n'est pas terminé, loin de là.
Hocham Daoud, rapidement sur cette idée de djihadisme globalisé.
Très rapidement, le Daesh d'Irak n'a pas la capacité de devenir une organisation globale. C'est une organisation territoriale avec une forte capacité d'influence. Seulement, où se trouve la dynamique d'un djihadisme global ? Se trouve pas la plupart du temps parmi les organisations djihadistes du proche Moyen-Orient, voire même d'Afrique du Nord. Souvent, ça arrive de l'Europe, souvent ça arrive d'Asie européenne, une partie d'Asie qui est proche de l'Europe. Et là où se trouve la dynamique, c'est vrai, d'un djihadisme, je dirais, relativement capable de devenir global ou zonal, voire.
Bernard Radeau, pour terminer, je rappelle que vous avez dirigé il y a 2 ans Insécurité humaine, les luttes pour la paix au 21e siècle, et on pouvait y lire qu'on est entré aujourd'hui de plein pied dans la guerre civile mondiale, qu'on serait peut-être entré de plein pied dans la guerre civile mondiale. Est-ce qu'il y a malgré tout, selon vous, une paix qui serait possible? À quoi elle ressemblerait dans cette région?
Pour arriver à la paix globale, il faut arriver à la paix locale. Ça va pas faire disparaître tous les problèmes, hein. On peut toujours avoir des gens qui se réclament même d'un État islamique fantôme pour aller faire des attentats, ou qui sont en train de se battre pour des raisons locales dans un endroit et qui vont se réclamer d'eux. Mais la construction de la paix en Syrie, en Irak et au Moyen-Orient, ça va être un processus long, parce qu'on a vraiment une dislocation et il faut remailler, retisser. On disait tout à l'heure, probablement la seule possibilité d'un État irakien fiable, c'est une confédération dans laquelle il y aura un pôle Mossoul. Mais qui est-ce qui dirigera Mossoul?
La question reste ouverte. Merci beaucoup Bernard Dreano, Agnès Levallois, Hocham Daoud. Toutes les référence de vos ouvrages, de vos articles sera sur notre page du Grain à Moudre d'été. L'émission qui a été préparée par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Monti. À la réalisation, c'était Anne-Laure Chanel. Voilà, à demain.